Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans cet épisode de Stéroïdes, le podcast un petit peu spécial puisque c'est un épisode consacré à Wild Search de Ringo Lam pour les besoins de l'édition DVD Blu-ray qui sort chez Spectrum et que vous avez normalement entre les mains puisque vous vous écoutez. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon compagnon Rafik Djoumi.
Salut Stéphane.
Salut Rafik. Pour parler donc de ce film un peu particulier dans la carrière de Ringo Lam puisque... C'est pas forcément déjà le film le plus connu.
Clairement pas.
Voilà, et ce n'est pas forcément le film le plus représentatif, même si je pense qu'on va trouver certains éléments qui sont constitutifs du cinéma de Ringo Lam. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est peut-être une œuvre de commande, en fait, dans la carrière de Ringo Lam, en tout cas la façon dont ça peut être perçu?
On peut dire ça de tous les films de Ringo Lam de cette période hongkongaise. Hein, c'est vraiment à la base un exécutant. Le truc avec Ringo Lam, c'est qu'il a été lancé en fait en remplacement de dernière minute sur un film qui s'appelait Esprit d'amour, qui était produit par Karl Macca, le producteur et acteur des Mad Mission, et donc a vraiment soutenu les débuts de carrière de Ringo Lam, mais c'était d'une certaine façon son homme à tout faire. Juste avant ce film-ci, il rend service en réalisant Mad Mission 4, par exemple. Hein. Donc, il est toujours dans la commande.
Mais avec une personnalité quand même bien trempée, quoi.
Qui commence à s'affirmer et qui, bien sûr, va surtout s'affirmer avec City on Fire, qui est emblématique de presque emblématique du polar hongkongais de l'époque, dans son caractère un peu rugueux, on va dire. Mais en même temps, un film comme Esprit d'amour, donc, était déjà un film très romantique à la base. C'est pas quelque chose dont il est complètement étranger, ce côté un peu fleur bleue. Mais c'est vrai que là, on a un film qui est vraiment entre les deux de façon parfois assez extrême.
Étonnante. En fait.
Étonnante, voilà. Déjà, on peut... repitcher rapidement, voilà. Donc c'est l'histoire d'un flic dont joué par Choi Yun-fat qui reçoit un type concernant un deal de flingues, d'armes qui va se faire, et ce deal, en fait, c'est une propriétaire de magasin d'antiquités qui s'appelle Hélène, qui est une mère, elle a une petite fille. Donc qui se sert de sa boutique de magasin d'antiquité comme un front pour faire son trafic, voilà, une couverture pour faire son trafic, et elle travaille avec un homme d'affaires qui s'appelle Monsieur Hung, et donc au moment où elle est les flics déboulent, elle est en plein deal. Dans son deal, ça dégénère, elle se fait tuer, et sa gamine se retrouve près du corps de
témoin,
qui a 4 ans, se retrouve donc le principal témoin de celui qui a tiré sur sa mère, et donc Choi Yun-fat en gros la prend sous son aile, retrouve la sœur de cette fameuse Hélène qui vit à la campagne avec le grand-père, voilà, et en fait va se retrouver à tenter à la fois de la protéger et de se servir de la gamine pour retrouver les traces de ce tueur. Donc voilà, en gros ça commence comme ça.
Et le film aussi, donc, à ce moment-là, entre cinéma policier pur et dur, à la Ringo Lam, même, j'ai presque envie de dire, on va en parler, et romance assez exacerbée à la hongkongaise, pour le coup.
Exactement.
Telle que se pratiquait dans les années 80 avec la chanson presque sirupeuse.
Une chanson de Anita Mui, d'ailleurs. Mais effectivement, à l'époque, le film s'inscrit assez clairement comme une forme de remake à peine déguisé de Witness, hein, on l'a vu, donc voilà, dans lequel un enfant est témoin d'un meurtre, pareil. Et l'idée, c'est que le flic de la ville va se retrouver à la campagne. Donc c'est le cas du personnage de Choi Yun-fat. puisque le film vraiment va nous aussi constamment entre cette campagne et les ambiances hongkongaises qu'on affectionne en tant qu'amateur de films d'action. Donc il y a aussi le caractère champêtre qui est déstabilisant. On n'était pas habitué à voir ça à cette époque-là. Alors la question de la romance, elle vient aussi du fait que 2 ans auparavant, Chow Yun-fat et l'actrice Cherry Chung était à l'affiche d'un film qui s'appelait An Autumn's Tale et qui avait été un énorme carton. Donc là, pour le coup, film totalement romantique. Et donc il y avait quand même l'idée de les réunir. Voilà, tout à fait. An Autumn's Tale, je crois que c'était carrément à l'époque de sa sortie un des plus gros succès de toute l'histoire du cinéma hongkongais. Enfin, c'était vraiment un truc assez énorme. C'était réalisé par une femme, Ma Belle Chung. Et donc voilà, donc il y avait cette idée de les réunir, tout en bien sûr surfant sur la nouvelle image de Chow Yun-fat, qui est quand même un acteur au départ qui avait une facette romantique marquée avant d'être régénéré par le polar hongkongais du milieu des années 80 et John Woo en particulier.
Le succès énorme du Syndicat du Crime.
Voilà, ouais. des deux, je crois que le deuxième était sorti aussi.
Oui, mais
aussi.
En fait, c'est surtout si on a fait une vraie star de cinéma, puisque voilà. C'était plutôt quelqu'un qui tournait à la télé. Enfin, il avait des rôles, hein, mais il tournait surtout à la télé. Et c'est ce qui en a fait une star, mais absolument monumentale à Hong Kong. Et surtout, en fait, ça en a fait aussi un staccanoviste, parce que là, à cette époque-là, il tournait 5 ou 6 films par an. Facile.
Cette année, donc l'année de la sortie de Wild Search, 1989, il est donc à l'affiche de The Killer. Mm-hmm. Vous en avez probablement entendu parler. Il est à l'affiche de All About Along, qui est aussi un gros succès.
De Johnny Toe.
Le Syndicat du Crime, donc numéro 3. Et le ACZ God of Gamblers, pour lequel j'ai une petite affection.
Ouais, de Wong Jing.
De Wong Jing, tourné en partie en France.
Et il y a même un petit, ce qu'on appelle, enfin, ce que la critique anglaise avait appelé le heroic bloodshed, c'est-à-dire tous ces films, en fait, qui sont ouverts dans les films d'action tragiques et mélodramatiques, en fait, qui sont sortis après les films de John Woo. C'était un film qui s'appelait Flaming Brothers.
Oui.
Voilà. Qui est pas une merveille, mais qui profitait du charisme de Chow Yun-fat.
Et donc, ce qui peut être intéressant avec ce film-là, c'est que l'image que Chow Yun-fat est en train de se créer à l'époque, c'est très clairement celle de John Woo, qui en a fait ce dérivé du Alain Delon du samouraï, quoi. Mmh. Donc, ça va être manifeste avec The Killer, où il a un côté, on va dire, quelque part ultra classe et très en retenue et presque d'une certaine façon assez rigide dans son élégance, c'est-à-dire vraiment un personnage de cinéma. Et ce que je trouve intéressant dans ce Ringolam-ci, c'est qu'on est il est pas dans ce Chow Yun-fat là.
Non.
Il est un peu clumsy. Alors il joue un flic qui a perdu sa femme et sa fille, donc bah du coup évidemment on se doute que à travers cette protection de la sœur d'Hélène et de la petite fille, ben il va rejouer une partie de son trauma, on va dire, et s'en guérir. Mais son personnage, voilà, il nous est présenté dans son appartement, ce qui n'était pas forcément quelque chose de commun dans les autres films très glamour qu'il pouvait faire à l'époque. Voilà, petit appartement hongkongais, un truc sans voilà. Il boit bière sur bière. Il y a même une séquence.
Il parle mal à la femme dont il va tomber amoureux. Il parle mal au début. Enfin, il est un peu voilà.
Tout à fait. Il est assez rugueux, mais c'est aussi au niveau de sa démarche. C'est-à-dire que chez John Woo, le moindre de ses gestes est incroyablement chorégraphié. Même quand il s'assoit sur une chaise, il faut que ce soit du Fred Astaire.
Dans le Syndicat du Crime, c'est les deux, parce que en fait, il y a la première partie quand il boite pas encore, quand il a pas été blessé, et la deuxième partie où il est déjà beaucoup plus.
C'est cinégénique.
Oui, bien sûr.
C'est très pas cartoonesque, mais
tu veux dire qu'il a plus visage humain dans celui-là.
Là, finalement, on est presque plus par moment si on retire les poursuites en bagnole et les coups de feu, on a presque l'impression d'avoir affaire à un film d'auteur à la française, quoi. La gestuelle du comédien est une gestuelle finalement naturelle.
Toutefois,
il y a une scène où il se fait péter la gueule par les hommes de Monsieur Wu, par exemple. Et donc où il récupère son arme pour les menacer, qui est censé être une scène de débauche de violence, mais en fait le personnage est pas du tout effrayant ou dominateur dans cette séquence là. On le voit tituber, etc. Enfin, il sait pas très bien ce qu'il fait. À un moment donné, il oublie son flingue, il revient sur ses pas. Enfin, il y a quelque chose. C'est pas le Shogun Fat qui est sorti des frontières hongkongaises de l'époque. Quoi.
Et il y a un aussi. Alors tu disais film d'auteur français. Je vais quand même un petit peu remettre, c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc qui est étonnant, c'est que la romance du film prend quand même une grosse partie dans le film et se base en fait sur quelque chose d'assez, on en parlait nous tous les deux en antenne, assez chaste et presque assez naïf en fait, parce que donc le personnage de la sœur a été marié, il y a un homme entre elle et Cho Yun-fat, mais en fait ils sont divorcés. Et en gros, Cho Yun-fat n'ose quand même pas, malgré tout, alors qu'elle est divorcée, aller, la courtiser. Donc c'est un peu étonnant, parce que ça, tu tiens pas tout à fait un film normalement avec ça.
Ils ont plein de scènes où ils sont tous les deux tout seuls, où effectivement on sent qu'ils ont envie de se jeter l'un sur l'autre et ils le font pas. Voilà. C'est assez prude, effectivement. Donc ça ne sera consommé qu'après générique, on va dire.
Voilà, c'est ça. Ceci dit, comme dans The Killer, par exemple, si tu veux, l'histoire d'amour de The Killer à laquelle tu crois, que t'adhères complètement, puisque en fait tout ce qu'il va faire, il le fait pour la femme qu'il aime, ce qui n'est pas forcément le cas dans le récit ici, c'est pas cet enjeu-là. L'histoire d'amour est tout aussi chaste, mais en fait, les sentiments ressortent finalement, je trouve, beaucoup plus. C'est-à-dire que je trouve que chez John Woo, par exemple, si on doit faire un comparatif, surtout pour deux films qui sont sortis la même année avec le même acteur principal, d'un côté, en fait, c'est plus organique le mélange romantique et romantisme exacerbé et ultra-violence. Alors que là, en fait, j'ai presque l'impression que parfois que c'est un passage obligé, et c'est pour ça que je parlais de film de commande, de la part des prods, en fait, qui demandent à Ringo Lam de vraiment créer une romance et que lui, il essaye de tirer ça vers le polar.
Moi, j'ai presque l'impression, au contraire, qu'il essaie de contenir sa violence, mais qu'elle explose, explose quand même. Il y a aussi, je pense, l'urgence de ces tournages à l'époque qui joue beaucoup dans le caractère parfois très brutal du film. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup les Ringo Lam de cette époque-là. C'est l'impression physique d'être à Hong Kong. Ouais. Déjà, la moitié des plans sont... Quand les mecs sont en bagnole, le caméraman est embarqué avec eux. Tu traverses vraiment les rues. T'as l'impression que la moitié des figurants n'en sont pas, que les plans ont été volés, quoi. Et ça donne ce qui est probablement le cas. Ça donne à certaines séquences d'action un caractère immédiat et réaliste qui est incroyable, quoi. Là, il y a une séquence... Donc, on n'a pas parlé de l'antagoniste qui est joué par comment il s'appelle, Roy Chung, qui est une espèce de tueur à gages, qui s'appelle Boulette dans le film, dont on comprend vaguement qu'il a été un soldat au Vietnam et qu'il a été sauvé par le méchant du film, qui est Monsieur Wu, quoi,
qui est un grand méchant cocaïné, à Hong Kong c'est pareil,
il n'avait pas tellement à l'époque, quoi. Paul Chun d'ailleurs, donc le méchant Monsieur Wu, qui est surtout connu en Occident pour la canonnière du Yangtze de Robert Wise, mais que j'avais moi personnellement apprécié dans Raining in the Mountain de King Wu et Peking Opera Blues de Tsui Hark. Bref, grosse carrière. Donc son protégé, donc Boulette, qui est le big méchant du film, qui est une espèce de Terminator. il a les vêtements de voyou du Terminator au début du premier film, quoi.
Mais c'est un personnage qui apparaît subrepticement. C'est-à-dire qu'en fait, il dès que l'impression que l'intrigue doit être on a oublié ce méchant, hop, on le remet et en fait il réapparaît. La fin c'est expédié quasiment.
C'est
5 minutes.
C'est pour le coup, c'est vraiment un antagoniste de film d'action.
Ah oui.
Dans un film qui est pas totalement un film d'action. Donc du coup, il y a une espèce de décalage dans ces apparitions. Et effectivement, quand il apparaît, c'est pour défoncer la gueule de quelqu'un. Donc il y a une scène qui est effectivement extrêmement bizarre, dans laquelle il bute l'informateur de Cho Yun-fat dans un restaurant, et il y a un gunfight entre les deux qui est le gunfight le plus étrange que le cinéma de Hong Kong nous ait offert à l'époque, où ils sont tous les deux planqués derrière une espèce de mini piliers, mais ils sont littéralement de chaque côté du pilier. Et enfin bon, il faut le voir parce que c'est très très bizarre. Alors que tous les gens du resto sont à genoux par terre, t'as ces deux mecs là qui se font un jeu du chat et de la souris à 20 centimètres l'un de l'autre. C'est très étrange. Bref, et dans la suite de cette séquence, il y a une poursuite en bagnole, ouais. Voilà, avec vraiment caméra embarquée, et je trouve qu'elle a un impact qui est incroyable. Il y a la moitié des plans, tu vois clairement que c'est les comédiens dans les bagnoles.
Mais c'est tout le principe du cinéma de Hong Kong de l'époque, c'est-à-dire que même dans la scène finale où d'un seul coup ils mettent le feu à la grange.
C'est carrément n'importe quoi.
Voilà, ils mettent le feu à la grange et en fait t'as tué une fête au milieu des flammes.
Et c'est clairement lui. Oui, c'est vraiment les deux comédiens en train de prendre feu dans cette grange. C'est assez ahurissant. Autant la scène est bizarre parce que il y a toute une série. Enfin, on se demande pourquoi il ne tire pas dessus alors que le mec est planqué dans la paille, quoi. Mais au moment où ça prend feu, t'oublies la suspension d'incrédulité, elle prend directement forme. T'oublies les histoires de coups de feu en disant mais ils ont vraiment jeté leur comédien dans les flammes, quoi. C'est complètement dingue. Et en plus, je crois qu'il y a des plans ralentis, donc t'as largement le temps de voir que c'est eux qui crament. Donc c'est assez impressionnant pour ça. Et donc dans la poursuite en voiture, Il y a une ou deux cascades qui sont genre what the fuck, quoi. Enfin, il y avait que le cinéma de Hong Kong à l'époque qui nous offrait des trucs aussi flippants, qui nous font presque sortir de l'intrigue pour nous dire mais est-ce qu'il y a eu des blessés sur ce tournage. Mais voilà, donc il y a ce côté comme dans la trilogie des On Fire de Ringo Lam, où t'as vraiment un côté rugueux, urbain, hyper affirmé, voilà. Et donc de l'autre, effectivement, cette romance champêtre, avec des figures, je dirais, assez caractéristiques, hein, du cinéma, pas seulement hongkongais, mais du cinéma chinois, qui nous sont peut-être étrangères, et notamment, par exemple, je pense au grand-père de la petite fille, qui est joué par l'acteur Ku Feng, qu'on connaît par l'Hirondelle d'or de King Hu, ou qui était aussi dans La Rage du Tigre, qui est un personnage assez caricatural de grand-père colérique, qui a renié sa première fille, qui est à la petite gamine qui essaie de lui parler, quoi, de créer le contact avec lui. Il l'envoie bouler comme une sous-merde.
Bon, mais voilà. c'est assez marrant parce que il y a de ça, et en fait il y a une façon effectivement de récupérer. Alors on a dit que c'était plus ou moins une relecture de Witness, de comme le cinéma de Hong Kong pouvait faire d'ailleurs, hein,
oui, à l'époque. Elle est assez discrète, cette relecture, c'est
la façon dont le film est perçu en Occident surtout, puisque en fait voilà. Mais c'est vrai que le cinéma de Hong Kong aimait bien faire des faux remakes de films qui venaient de cartonner, en fait, en salle en Occident, et pour les faire pour le cinéma local, quoi, pour les produire pour le cinéma local. Mais c'est vrai que parce que à cette époque-là, il n'y avait pas forcément l'idée que le cinéma de Hong Kong allait s'exporter en dehors de l'Asie. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment beaucoup arrivé avec Tsui Hark et John Woo, et ça a quand même pris un peu de temps aussi, quoi. John Woo, il s'est fait connaître à la fin des années 80 aux États-Unis, mais autrement, le cinéma de Hong Kong ne s'exportait pas vraiment à cette époque-là, quoi. Et en fait, du coup, ça faisait sens de, entre guillemets, voler une idée et de le faire à leur manière. Et ce personnage, en fait, j'ai l'impression que c'est une façon d'avoir le meilleur des deux mondes, en fait. C'est-à-dire que, en gros, c'est un personnage qui est incompréhensible, enfin, qui est pas incompréhensible, mais qui rejette presque, en fait, la vie moderne, on va dire. C'est-à-dire qu'il est présenté un peu comme ça, mais tu peux pas en faire un ami, ça n'existe pas là-bas. Donc en fait, c'est vraiment une manière de traiter la distinction entre les deux univers, en fait.
Oui, non, puis voilà. Culturellement, c'est marqué aussi dans le respect dû aux anciens, qui est très marqué en Chine.
En fait, voilà. Ça se rejoint dans la culture locale. Quoi. Et c'était assez intéressant de voir comment il faisait, même si c'était pas aussi marqué, finalement, que dans le film de Peter Weir.
Et donc, du coup, visuellement, voilà, comme on passe entre ces deux univers, il y a aussi des petites subtilités photographiques, hein, qui se jouent, parce que le Hong Kong, la ville de Hong Kong, on la voit pas que, mais essentiellement de nuit quand même, alors que c'est beaucoup plus clair du côté de la campagne. Faut noter donc le chef opérateur s'appelle Andrew Lau, donc c'est le fameux Andrew Lau qui nous fera ensuite les... Comment ça s'appelle, Final Affairs, etc. Et qui donne aussi quelques jolis effets. On a parlé de la scène de la grange, donc avec qui prend feu. Visuellement, ça nous donne quand même un joli truc, quoi.
Et puis c'est encore une fois, c'est saisissant, en fait. C'est-à-dire que en fait tout le film n'est pas forcément comme ça. Et justement, les moments où ça ressort. Mais comme les explosions de violence, en fait, c'est d'un seul coup, on se retrouve vraiment dans un polar de Hong Kong des années 80, l'espace de 3 minutes. Mmh. Ce qui est en vrai ce que tu es venu voir à la base quand tu achètes ce film, je pense, hein, et quand tu le regardes. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment entre deux gros genres en fait, de ce cinéma-là. Et c'est pour ça que je trouve en fait, ça assez étonnant aussi le côté comment dire, violent du film, c'est-à-dire le moment où tu as par exemple un flic qui se fait exploser par une bagnole, qui se la prend en pleine poire, quoi, mmh. Où tu te dis, mais j'étais dans une romance il y a littéralement 2 minutes. Tu vois, et c'est saisissant en fait, ce contraste-là. Quoi.
Et les figurants qui tombent régulièrement. Donc voilà, on a dans la scène finale un paysan qui se prend une balle perdue, et on a quand même le temps de voir sa femme récupérer le cadavre, etc. C'est effectivement l'apparition de la mort est assez subite. Mais donc voilà, c'est un film qui a pas eu une exploitation en France à ma connaissance. Alors on se posait la question, je crois qu'il était peut-être sorti en vidéo
en VHS, voilà. Mais dans le magazine, c'est pas ça. Forcément à part, c'est-à-dire mmh. qu'il y avait deux, il y avait bon, je, petit rappel historique, il y avait la grande collection HK en VHS un peu luxueuse avec des jolis boîtiers pour sortir les films qui étaient offerts avec le magazine ouais. où pour le coup c'était le même type de packaging mais moins classieux, un peu plus cartonné simple, et en fait et il me semble je peux pas le garantir, il me semble qu'il était sorti là-dedans.
En tout cas, c'est un film qui est plus à ma connaissance apprécié par le public anglo-saxon qui ne semble l'être en France, aussi peut-être du fait qu'il est peu connu, mais justement par son côté un peu retenu, c'est-à-dire c'est pas le film de genre assumé total, c'est clairement pas la trilogie On Fire
Le Contact en fait, ou Full Contact, voilà. Le point extrême en fait de ce que Rigolam a pu faire.
Il y a tout un côté fat, voilà, comme il y a tout un côté un peu retenu, on l'a dit, donc un peu romantique, un peu symboliste, même si ça peut être du symbolisme parfois, encore une fois, fleur bleue. Il y a tout un petit truc autour des fleurs que Chow Yun-fat fait porter à Cheery Chung, et voilà, où à un moment donné il lui fait remarquer qu'elles ont été brisées. Bon, ouais. Bref.
Donc, c'est alors. On l'a dit, film de commande, mais quand même film de Ringo Lam quand même.
Oui.
On le reconnaît vraiment. Voilà, donc
et emblématique de cette époque en fait. Voilà, on peut pas le sortir de si on veut montrer à quelqu'un à quoi ressemble, c'est quoi le polar hongkongais des années 80, on peut lui sortir certaines scènes clés de ce film là. Moi je pense que vraiment il y a deux poursuites dans le film, dont une qui est vraiment saisissante, quoi.
Merci Rafik.
Merci Stéphane.
Merci Alain, merci à la technique. Merci Antoine Guérin pour l'opportunité de faire ce podcast et de le diffuser sur le DVD et le Blu-ray de Wild Search. Pour écouter tous les podcasts que nous faisons à côté, vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes habituelles, SoundCloud, Acast, Deezer, Spotify. Et à la prochaine.